Ce matin, je voudrais peut-être lire un livre de la Bible qui a été écrit sous une forme de lettre. Alors, l'homme qui l'écrit a été un jeune homme fougueux, audacieux. C'était un leader dans le groupe des gens qui entouraient Jésus. C'était un homme qui agissait d'abord et puis réfléchissait après sur les conséquences de ce qu'il faisait. Mais Jésus l'aimait beaucoup. Sa rencontre avec Jésus a été un grand tournant de sa vie. C'était un disciple de Jean-Baptiste, mais qui a rejoint Jésus grâce à son frère André. Il a abandonné sa vie, son métier de pêcheur, et il est devenu plutôt le pêcheur d'hommes, en quelque sorte. Il a beaucoup appris de Jésus, puisque Jésus souvent le prenait et partait avec lui en privé. Lorsqu'il allait vivre des moments plus intenses, il prenait cet homme-là et il partait avec lui. Et il connaissait énormément sur Jésus. Il a aussi beaucoup appris à travers les épreuves de la vie, parce qu'il n'a pas été épargné. Souvenez-vous, vous devinez déjà de qui je parle, mais cet homme a par exemple connu une expérience terrible. Jésus lui avait dit, tu me renieras. Il a dit, moi te renier, autant mourir. Et c'est une expérience douloureuse de savoir que on m'a dit que je vais renier le maître. Le maître me l'a dit, mais je l'ai renié. Il a connu des épreuves difficiles. Au moment où il écrit cette lettre, dans ce livre qui est écrit sous forme de lettre, au moment où il l'écrit, il est devenu un vieillard. Il est devenu vieux. Il sait qu'il va bientôt mourir. C'est donc un homme qui va écrire cette lettre comme un testament. Il va écrire cette lettre comme une lettre d'adieu, comme une dernière exhortation qu'il fait encore au peuple de Dieu, comme un dernier cri d'alarme adressé aux chrétiens qu'il avait rencontrés sur le chemin et qu'il avait encadré. Il use donc dans cette lettre de toute son expérience glanée tout au long de son parcours dans la vie. Il veut en toute humilité transmettre encore des recommandations à ceux qui doivent continuer encore la route. Et quelque part, ça peut nous concerner. Cet homme, vous avez deviné de qui il s'agit. Merci. L'apôtre Pierre. Ce que j'aime, avant de pouvoir parler de ce livre, ce que j'aime avec l'apôtre Pierre, c'est que quand on regarde sa vie, son parcours de vie, et c'est une leçon de vie pour nous aussi, en tant que chrétiens, on voit que Pierre a été un jeune fougueux, près du Seigneur, prêt à tous les 400 coups. Puis, deuxième étape, Pierre est vraiment rentré dans son leadership. Il est devenu un leader spirituel, un père, en quelque sorte, qui conduisait, qui encadrait cette nouvelle église naissante et qui a porté l'œuvre de Dieu. Et dans cette lettre, ce n'est plus le jeune fougueux, ce n'est plus le leader expérimenté, ça devient la personne âgée, le vieillard, mais le conseiller. Peut-être dans la vie, nous les chrétiens, apprendre de ce parcours de vie. En fonction de notre âge, en fonction de notre position, nous devons apprendre à savoir quand il faut être dans la phase où nous apprenons, quand on est dans la phase où nous avons des responsabilités, et puis, lorsque le temps, notre temps de responsabilité est révolu, savoir faire un pas en arrière et laisser promouvoir les autres pour aller de l'avant et devenir alors leur conseiller, leur allié. C'est quelque chose de très important qui permet alors qu'on passe la relève, qui permet alors que d'autres continuent sur le même chemin que nous avons construit. Pierre donne cet exemple-là, et puis Puissions-nous être de cela dans nos familles, dans l'Église, capables de savoir quelle est notre place, quelle est la place et la fonction que nous occupons à un moment donné. Et puis, ensuite, comment laisser la place à d'autres pour qu'eux poursuivent pendant que nous, nous prenons le rôle où nous assurons simplement l'arrière et nous continuons à encadrer, mais dans un autre rôle qui n'est plus le rôle de leader, mais le rôle de conseiller, de celui qui aide, qui permet que l'œuvre avance. Je trouvais que c'était très beau, cette manière, cet comportement de l'apôtre Paul. Alors, la lettre, le livre dont je parle, c'est la deuxième lettre de Paul, de Pierre, pardon. Donc, c'est de Pierre. Je ne sais pas ce que vous savez des épîtres de Pierre, de lettres de Pierre. On va le lire après. Cache-le, sinon ils vont tous commencer à le lire et puis ils vont plus m'écouter. Hein. Je vais juste d'abord résumer le contexte général des lettres de Pierre. Il y a la première lettre et la deuxième lettre de Pierre. Elles ne se ressemblent pas. Techniquement, on discute beaucoup pour dire que c'est peut-être pas la deuxième, n'est peut-être pas la lettre de Pierre. Mais enfin, mais c'est pas une discussion qui vaut la peine puisque quand même il y a assez d'éléments qui montrent que c'est à lui. La première lettre de Pierre, Pierre est préoccupé par rappeler simplement les ennemis, les dangers qui nous poursuivent, les épreuves. La suite dans laquelle on est, les combats auxquels on est confrontés, tout ce qui, de l'extérieur, vient perturber notre marche avec Dieu. Et donc, c'est écrit dans un langage qui nous oblige à comprendre le monde dans lequel on se trouve et à comprendre notre identité pour savoir agir comme cela convient en tant que chrétien. La deuxième lettre est plutôt un cri d'alarme à l'égard non plus des dangers extérieurs, mais plutôt des dangers intérieurs, des menaces de fausses doctrines, des menaces des hérésies à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de l'Église. C'est à cela que Pierre se trouve confronté et c'est ce but pour lequel il écrit cette deuxième lettre. On voit dans cette deuxième lettre un Pierre qui a bien évolué, qui n'est plus le même Pierre, mais qui est un homme d'expérience, un homme qui connaît l'œuvre de Dieu et qui peut vraiment parler comme un conseiller. Les époques sont les mêmes, puisque nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, confrontés à des dangers à l'extérieur, même si ils sont moins prenants que ceux de cette époque-là, on n'est pas dans la persécution, mais à l'intérieur, nous sommes toujours menacés par les mêmes dangers aussi, à travers les fausses doctrines, les hérésies, les mauvaises connaissances. Donc, nous voulons vraiment aborder ça avec cette réflexion-là, et j'espère que ça vous donnera envie de pousser la lecture de 2 Pierre, ou ça vous inspirera d'autres textes de la Bible. Alors, on va d'abord prier, et avant d'ouvrir le texte et de l'aborder. Seigneur, nous ne sommes pas là simplement parce que nous sommes contents de nous retrouver. Oui, c'est vrai, nous sommes contents de nous revoir. Nous ne sommes pas là seulement parce que nous voulons profiter de cette ambiance fraternelle. Nous sommes là aussi parce que nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu nous exhortes. Certains peut-être sont venus ce matin avec un fardeau dans le cœur, avec un questionnement, peut-être avec des difficultés, avec peut-être de la tristesse, avec peut-être des défis. Seigneur, tu connais toutes choses. Peut-être à travers le message, à travers ta parole, tu peux par le Saint-Esprit toucher, parler. Seigneur, scotche-nous, connecte-nous à toi, Seigneur, à travers ta parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire tout le chapitre. Donc, on fait tout le chapitre 1 aujourd'hui. Prochainement, on fera le chapitre 2. Et puis le chapitre, heureusement, c'est pas très très long. Hein. Il n'y a que 3 chapitres. Donc, on n'est pas mort au bout de... Voilà, 21 versets. Allez, on y va. Dans d'autres églises, on les fait lire tous ensemble. Mais ça va prendre 30 minutes si je commence avec vous comme ça. De Pierre, je vais lire donc tout le chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui, en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, et bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je l'acquitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous allez m'excuser pour le fait que je ne veux pas prendre chaque contexte, chaque sens de mot, mais plutôt je vais parcourir dans l'ensemble ce texte. L'apôtre Pierre se présente comme un serviteur et un apôtre. Ce n'est pas anodin. Ces deux postures qui sont importantes dans sa relation avec Dieu, avec Jésus. Il se situe à la fois sur un plan relationnel en termes de relations humaines, c'est son esclave, c'est son serviteur au sens où il est son esclave. Face à Dieu, il n'a pas de droit. Il est dépendant totalement de Jésus. Ça, c'est la première posture qu'il prend. Sa vie, c'est Christ. Ses choix, c'est Christ. Sa destinée, c'est Christ. Il ne vit pas pour lui, mais il vit pour Christ. Deuxième posture, apôtre de Jésus-Christ. Ça, c'est la fonction. Ça, c'est la vocation. Ça, c'est la tâche. C'est le ministère. Il est apôtre. Dois-je vous rappeler ce que c'est qu'un apôtre? Vous savez ce que c'est. Étude biblique. Si jamais vous ne savez pas, étude biblique, on se retrouve là-bas, on peut parfois expliquer ça. Pierre, assez vite, commence ce texte assez rapidement en nous disant qui nous sommes et à quoi sommes-nous destinés en Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu, participant à la gloire de Dieu, à la nature de Dieu. Dieu a rendu cela réel, Dieu a rendu cette participation, la nôtre, à la nature divine, Dieu l'a rendu réel, l'a rendu vrai par sa puissance. Quelle est notre destinée? Nous sommes destinés à mener une vie spirituelle victorieuse du péché. Une vie spirituelle victorieuse, pas seulement du péché, mais des conséquences du péché. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Destinés donc à vivre éternellement avec lui dans une relation. C'est ça la vie éternelle, dans une relation permanente avec lui. Notre destin donc est ce travail de transformation de notre être intérieur pour de plus en plus être à sa ressemblance. Ça, c'est le projet de Dieu. Faire donc de nous des enfants de Dieu, des enfants qui ont une nature spirituelle qui est celle de Dieu. Ainsi, c'est comme si, d'après le verset 1 ici, le verset 3 ici, c'est comme si nous avons, par la nouvelle naissance, nous avons déjà les gènes spirituels pour être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire ses enfants, que nous soyons les chrétiens, les hommes et les femmes dont il pourra être fier. Nous avons déjà ce dispositif génétique en nous pour que nous soyons à la ressemblance de Christ. Mais un enfant qui vient de naître, il a tout le dispositif génétique de ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Enfin, je ne parle pas aux enfants parce que peut-être qu'ils savent pas. Parlons plutôt des parents. Les parents, répondez-moi quand même. Est-ce que les enfants ont-ils le gène de leurs parents? Les enfants peuvent répondre aussi, hein. Certains ne souhaitent pas avoir les gènes de leurs parents. Mais enfin, voilà. C'est une réalité. Donc, il y a un dispositif génétique avec lequel nous arrivons dans le monde. Et spirituellement, Dieu a donné tout le dispositif. Mais un enfant est-il destiné, a-t-il comme finalité de vivre et de rester un enfant? Sa nature, son dispositif génétique est appelé à grandir. Il est appelé à grandir et c'est plus il grandira qu'on va dire, tiens, il ressemble à son père, tiens, il ressemble à sa mère, tiens, il a le même tic que son cousin, etc. Tiens, ça c'est de l'aide de famille. Parfois aussi, malheureusement, il y a des maladies familiales, des tares. Malheureusement aussi, dans la famille, il est comme son cousin là, ils sont tous un peu, voilà, bref. Dieu s'attend à ce que ce qu'il nous a donné par la foi, nous puissions le développer. Il s'attend à ce que nous puissions faire tous les efforts qui sont les nôtres pour grandir spirituellement. Ce n'est pas, il ne s'agit pas pour nous de juste nous contenter de dire, j'ai les gènes, waouh, je m'assois, je fais ma vie et c'est tout. Non, Dieu s'attend à ce que nous puissions, avec ce dispositif, par la foi, grandir. Aller de l'avant. D'où cette exhortation, de pouvoir faire tous les efforts. Verset 4, je pense, c'est ça? C'est ça, non. Verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts, et donc pour joindre toutes ces choses, toutes ces vertus, afin de pouvoir grandir spirituellement et favoriser le développement de cette nature spirituelle. C'est peut-être pas le lieu pour nous de réfléchir à cela, mais c'est peut-être l'occasion pour nous de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour grandir spirituellement? Est-ce que ma vie spirituelle est juste une vie dont je me contente de, je viens au culte, je reçois les enseignements, de temps en temps je lis ma Bible, de temps en temps je prie, de temps en temps je rends un petit service à gauche et puis à droite, de temps en temps, mais pour le reste, je vis. Certains ne vivent pas en faisant des programmes, certains aiment bien qu'on les pousse. Tu voyez? Vous connaissez ce genre de personnes-là, non? Bon, je ne fais pas de commentaires parce que le but n'est pas d'aller là. Ok, donc l'enjeu c'est de grandir. Évidemment, cette manière de grandir nous permet à la fois de développer le côté positif, mais aussi d'éviter les pièges de la chair qui nous poussent au péché. C'est ce que l'apôtre dit. Si nous nous mettons dans cette activité de rechercher comment grandir spirituellement, ce qui va se passer avec nous, c'est que nous allons éviter les pièges du péché. Nous allons être de plus en plus victorieux de notre nature pécheresse. Vous savez que l'être humain, enfin le chrétien, il a un dispositif dans lequel la chair reste encore, malheureusement. Vous savez ça? C'est pour ça qu'on pêche encore. Peut-être qu'il occupe 20%, mais il est là. Il est là. Il suffit de lui donner à manger. Hein. Donnez-lui à manger. La médisance, la colère, l'animosité, la distraction, la nonchalance. Donnez-lui tout ce qu'il a, il aime manger. Donnez-lui ça, vous allez voir la nature charnelle grandit, et finalement on devient un chrétien charnel, on devient un gros pécheur en étant un chrétien. Mais on peut aussi réduire sa taille en lui privant de tout ce que la nature charnelle aime, en refusant les choses que la nature charnelle nous pousse à faire. Par exemple, médire sur les gens, s'énerver, se fâcher, regarder les choses qu'on ne doit pas regarder. Je fais pas trop de commentaires là-dessus, mais parfois on regarde à la télé des trucs plus. Et écouter ce qu'on ne doit pas écouter, aller là où il ne faut pas aller, etc., etc., fréquenter les gens qu'il ne faut pas fréquenter, etc., etc. Et ça peut permettre que, voilà, si on se prive de tout cela, ça permet qu'on réduise le poids et l'influence de la chair, et puis surtout, évidemment, une culture chrétienne axée sur la lecture de la parole de Dieu, sur une vie de prière, une bonne fréquentation chrétienne, etc., ça permet que nous puissions commencer à grandir. Donc le souci principal de l'apôtre Pierre, c'est que le chrétien soit fondé sur Christ. C'est ce qu'il veut dire à travers tout ça. Il veut simplement dire, accrochez-vous, développez votre relation avec Jésus. Soyez de plus en plus chrétien avec Christ. Et ce n'est que ça qui va être véritablement le rempart, le moyen pour pouvoir grandir dans sa foi et aller de l'avant avec ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est pour cela que il dit qu'il va rappeler souvent cela. Rappeler souvent que nous avons une nature spirituelle à la base déjà qui existe. Que par la foi nous avons à faire les efforts pour que cette nature grandisse. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi est-ce que le fondement est-il important à rappeler? L'apôtre Pierre va dire, à partir du verset 11, il va dire, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous à votre élection. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et verset 13, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc dans ce corps, n'est-ce pas, de vous tenir en éveil par les avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. L'apôtre sait qu'il va mourir. Vous savez comment il est mort? Non, c'est pas avec une balle. Non, pas par balle. Mais il est mort crucifié, la tête à l'envers. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment à Rome. Hein. Commençons pas ce débat-là. Donc, l'apôtre sait qu'il va mourir et il prévient, il prend soin de dire, attention, je prendrai soin de le faire. Et même, verset 15, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ça montre à quel point c'est important pour lui. Ça montre à quel point c'est important que nous puissions nous rappeler ces choses-là. Nous rappeler qui nous sommes et quelle est notre destinée et les moyens que nous avons pour pouvoir aller de l'avant, grandir spirituellement, pouvoir atteindre cette personne que Dieu veut que nous soyons. C'est important, il le rappelle. Et au cœur de cette fondation-là, de ce rappel, il y a l'œuvre de Jésus-Christ, il y a la personne de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est important? Le verset 16, les deux versets 16 et 19 le disent. La première raison pour laquelle ce fondement est important à rappeler, c'est d'abord parce qu'il ne s'agit pas des fables. Ce n'est pas des histoires. Non. Ce n'est pas un mythe. Christ a bel et bien existé. Il a bel et bien existé. Lui, l'apôtre qui a écrit, en a la preuve, puisqu'il l'a côtoyé. Il a vécu avec lui. Donc, c'est comme si vous essayez de convaincre quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un d'autre que cette personne n'existe pas. Et on vous dit, mais attendez, j'ai mangé avec lui. J'ai parlé avec lui. J'ai discuté avec lui. On a fait plein de choses ensemble. Il existe. Ce n'est donc pas des fables. C'est la réalité. Jésus est ce Jésus qui existe. Attention, ce n'est pas simplement un humain spécial avec des dons spéciaux. Non, cet humain-là, c'est Jésus-là, c'est un humain, mais c'est aussi pleinement Dieu. Non seulement il est Dieu, mais il a été révélé par Dieu. Il a eu le témoignage de Dieu qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, ce n'est pas des fables. Voilà pourquoi il est important de rappeler le fondement. Parce que quelque part, il s'agit d'une réalité à travers Jésus-Christ. La deuxième raison, au verset 19, c'est que non seulement Jésus a bel et bien existé, mais son existence a été à corroborer, à confirmer les anciennes prophéties. Jésus, par les actes qu'il a posés, a accompli les prophéties du passé. Donc, à la fois, lui est la réalité même de Dieu, mais la parole confirme cela à travers les prophètes. Double raison pour laquelle ces choses sont donc sérieuses. Et c'est donc une certitude. Donc, Jésus, la réalité de Jésus devient donc une certitude au cœur. Et donc, il exhorte les chrétiens, il dit, verset 19, « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pourquoi ? Parce que la prophétie est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. C'est par la prophétie que nous voyons le chemin de Dieu. C'est que Dieu nous annonce qu'il va faire. Ce que Dieu dit qu'il va réaliser, c'est par là qu'on sait que les choses vont se faire. C'est comme une lumière qui nous montre la voie. Et donc, on sait qu'un jour, puisque Dieu a promis, et puisqu'on a vu des réalisations dans ces promesses-là, on sait que Dieu accomplira toutes choses. Donc, tout ce qu'il promet, on sait que cela se fera. Un jour, et c'est ça qu'il dit ici, un jour, nous allons voir paraître, jusqu'à ce que à la fin de verset 19, là, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Cela s'accomplira. Il y a un mélange ici, chez l'apôtre, entre les événements de la fin des temps et aussi, donc, l'avènement en termes de salut pour Jésus-Christ, pour l'humanité. Et pour appuyer cette certitude, Pierre va terminer avec cette vérité essentielle pour nous. Verset 20. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune, ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Très, très, très important et très intéressant. On peut s'arrêter là-dessus, mais j'aimerais juste peut-être lire un petit commentaire là-dessus pour que nous comprenions la portée de ce que Pierre est en train de dire. Il a bien sûr profité du fait qu'il y a eu ce témoignage prophétique pour pouvoir ainsi apporter la vérité sur la conception de la prophétie. Une prophétie, c'est le prophète qui reçoit une vision, un songe ou une inspiration. Et souvent, le prophète n'en comprend pas toujours le sens. Il n'en comprend pas toujours la portée. Et donc, il ne peut pas se permettre de l'interpréter, ni dans un sens, ni dans un autre, de peur qu'en employant sa raison, ses réflexions personnelles, il puisse mélanger ce que Dieu est en train de dire avec ce que lui, il pense. Et donc, la tâche du prophète est plutôt de se référer à Dieu et de s'attendre à ce que Dieu lui-même l'éclaire sur ce qu'il veut dire. Parce que la prophétie appartient à celui qui donne la prophétie, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et donc, c'était une réalité que Pierre voulait mettre là pour ouvrir les yeux de la... que en fait, tout ce qui a été prophétiquement accompli en Jésus-Christ, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Les prophètes ont été simplement poussés par le Saint-Esprit pour dire des choses que Dieu allait accomplir. Ça vient de Dieu et pas des hommes. Nous sommes dans une époque où de plus en plus on voit le retour du prophétisme. On voit de plus en plus des gens qui se déclarent prophètes ou des gens qui s'intéressent à la prophétie, au don de prophétie. Mais ce texte nous rappelle un peu comme un contexte. Recherchez d'abord à ce que la prophétie soit d'abord l'œuvre du Saint-Esprit, poussée par le Saint-Esprit. Seul Dieu peut nous aider à clarifier la compréhension d'une prophétie. C'est pas à l'homme. L'homme n'est pas capable de le faire, mais l'homme peut le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà le chapitre premier. En fait, Pierre va juste planter le décor. Son but, c'est d'arriver à aborder la question avec les hérésies. Mais pour pouvoir le faire, il doit d'abord rappeler qui nous sommes. C'est un peu comme si vous travaillez à la Banque nationale. Vous ne travaillez pas à la Banque nationale? Non, bon. Vous travaillez à la Banque nationale et on va vous apprendre d'abord à connaître le bon billet. N'est-ce pas? Comme ça, le jour où vous tombez sur un faux billet, vous savez l'identifier parce que vous connaissez le vrai billet. C'est un peu la démarche de Pierre. Qui sommes-nous d'abord? Nous connaître nous, connaître ce à quoi nous sommes appelés, ce que Dieu veut de nous. Cela nous permettra de pouvoir identifier, repérer les fausses doctrines, les faux enseignants. Parce qu'alors, ce que nous sommes nous permettra de dire, ah, ça ne correspond pas avec ce que nous savons que Dieu veut de nous. Amen. C'est ça la démarche de Pierre dans ce texte. Et donc, nous venons de voir qui nous sommes, et donc nous allons voir après les autres chapitres, voir comment Maintenant, les fausses doctrines se sont dessinées et se sont développées. Prions. Seigneur, merci pour le peu qui a été partagé. Merci pour le fait que toi seul, notre Dieu, peut nous guider dans la pertinence de ta parole et dans la connaissance. Nous voulons juste prendre du plaisir à le lire et à le découvrir et à voir les choses qui se dessinent. Aide-nous pendant ces vacances, ces périodes de vacances, à prendre le temps de lire notre Bible, de lire un livre en entier et de pouvoir apprendre un peu plus. Seigneur, conduis-nous dans cette méditation et impacte ta parole qui a été partagée, le peu qui a été donné, que Seigneur, toi-même, tu fasses le chemin avec dans la vie et dans les cœurs de chacun. Au nom de Jésus. Amen.